Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future. Introduction. Caractère propre de toute connaissance métaphysique. Chapitre 1. Des sources de la métaphysique. Quand on veut présenter une connaissance comme science, il faut avant tout pouvoir déterminer avec précision ce qu'elle a de propre et qui la distingue de toute autre connaissance. Autrement, les limites de toutes les sciences se confondent et aucune d'elles ne peut être traitée quant à sa nature d'une manière fondamentale. Or, ce côté distinctif peut consister dans ce qu'il y a de propre, soit à l'objet, soit aux sources de la connaissance, soit encore à la manière de connaître, ou dans quelques-unes de ces choses, ou dans toutes. C'est là-dessus que repose avant tout l'idée de la science possible et de son domaine. Et d'abord, en ce qui regarde les sources d'une connaissance métaphysique, il est évident par la notion même de cette connaissance qu'elles ne peuvent être empiriques. Ces principes, dont font partie non seulement les propositions qui les constituent, mais encore les notions fondamentales, ne doivent jamais être pris de l'expérience. Cette connaissance, en effet, doit être non pas physique, mais métaphysique, c'est-à-dire dépassée d'expérience. Par conséquent, ni l'expérience externe, qui est la source de la physique, ni l'interne, qui est le fondement de la psychologie empirique, ne peuvent lui servir de base. Elle est donc une connaissance a priori, ou d'entendement pur et de raison pure. Mais il n'y aurait rien jusque-là qui la distinguât des mathématiques pures. Elle pourra donc s'appeler une connaissance philosophique pure. Je renvoie pour la signification de cette expression à la partie de la critique de la raison pure où j'ai donné, d'une manière claire et satisfaisante, la différence de ces deux sortes d'usages et la raison. Note du traducteur, tome 2, page 314 de la troisième édition française, à laquelle nous renverrons désormais. Fin de la note, reprise du texte. Voilà ce que j'avais à dire des sources de la connaissance métaphysique. Chapitre 2. De l'espèce de connaissance qui seule peut s'appeler métaphysique. Petit 1. Du jugement synthétique et du jugement analytique en général. Une connaissance métaphysique ne doit contenir que des jugements a priori purs. Le caractère propre de ces sources l'exige. Mais quelle que soit l'origine ou la forme logique des jugements, ils présentent une différence quant à la matière, suivant qu'ils sont, ou purement explicatifs et n'ajoutent rien au contenu de la connaissance, ou qu'ils sont extensifs et étendent la connaissance donnée. Les premiers peuvent s'appeler des jugements analytiques, les seconds, des jugements synthétiques. Des jugements analytiques ne disent dans le prédicat rien qui n'ait déjà été pensé réellement dans la notion du sujet, quoique pas aussi clairement et avec la même conscience. Quand je dis « tous les corps sont étendus », je n'ai absolument rien ajouté à ma notion de corps, mais je l'ai analysé, puisque l'étendue était déjà pensée réellement de cette notion avant le jugement, quoiqu'elle ne fût pas littéralement exprimée. Le jugement est donc analytique. Au contraire, la proposition « quelques corps sont pesants » contient dans le prédicat quelque chose qui n'est pas réellement conçu dans la notion générale du corps. Elle étend donc ma connaissance, puisqu'elle ajoute à ma notion quelque chose. Elle doit donc s'appeler un jugement synthétique. Petit 2. Le principe commun à tous les jugements analytiques est le principe de contradiction. Tous les jugements analytiques, absolument, portent sur le principe de contradiction. Ils sont, quant à leur nature, des connaissances a priori, que les notions qui leur servent de matière soient empiriques ou non. Car le prédicat d'un jugement analytique affirmatif étant déjà pensé dans la notion du sujet, il n'en peut être nié sans contradiction. De même, l'opposé de ce prédicat dans un jugement analytique, mais négatif, est nécessairement nié du sujet, et toujours en conséquence du principe de contradiction. C'est ce qui arrive dans les propositions « tout corps est étendu » et « nul corps n'est inétendu ». Entre parenthèses, simple. Toutes les propositions analytiques sont donc aussi des jugements a priori, quoique leur notion soit empirique. Par exemple, l'or est un métal jaune. Car pour le savoir, je n'ai besoin d'aucune autre expérience en dehors de ma notion d'or. Notion qui emporte celle de corps jaune et métallique. Car c'était là précisément ma notion. Il m'a suffi de la décomposer sans m'occuper d'autre chose autour de moi. Petit 3. Les jugements synthétiques ont besoin d'un principe autre que le principe de contradiction. Il y a des principes synthétiques a posteriori dont l'origine est empirique, mais il y en a aussi qui sont certainement a priori et qui proviennent d'un entendement pur et de la raison. Ces deux sortes de jugements s'accordent en ce qu'ils ne peuvent jamais avoir lieu d'après le seul principe de l'analyse, le principe de contradiction. Ils veulent un principe tout autre encore, bien qu'ils doivent toujours être dérivés d'un principe, quel qu'il soit, conformément au principe de contradiction. Rien, en effet, ne peut être contraire à ce principe, quoique tout ne puisse en être dérivé. Je commencerai par classer les jugements synthétiques. Premièrement, les jugements d'expérience sont toujours synthétiques. Il serait absurde, en effet, de fonder un jugement analytique sur l'expérience, puisque je ne dois absolument pas sortir de ma notion pour embrasser le jugement, et que je n'ai besoin pour cela d'aucun témoignage de l'expérience. Qu'un corps soit étendu, c'est là une proposition qui subsiste a priori, et non un jugement expérimental. Avant de m'adresser à l'expérience, en effet, j'ai déjà toutes les conditions de mon jugement dans la notion d'où je n'ai qu'à tirer le prédicat en suivant le principe de contradiction. Et par là, j'ai en même temps la conscience de la nécessité du jugement, nécessité que l'expérience ne m'apprendrait pas même. Deuxièmement, les jugements mathématiques sont tous synthétiques. Cette proposition semble entièrement contraire aux observations de ceux qui, jusqu'ici, ont analysé la raison humaine, bien qu'elle soit d'une certitude incontestable et fort importante pour ce qui doit suivre. En effet, comme on trouvait que les raisonnements des mathématiciens procèdent tous d'après le principe de contradiction, ce qui est exigé par la nature de toute certitude apodictique, on se persuadait que les principes eux-mêmes étaient reconnus en vertu du principe de contradiction, en quoi l'on se trompait fort. Car une proposition synthétique peut bien être considérée d'après le principe de contradiction, mais à la condition seulement qu'on suppose un autre principe, un principe synthétique, d'où il puisse être dérivé, mais jamais en le considérant en lui-même. Il faut remarquer avant tout que des propositions mathématiques proprement dites sont toujours des jugements a priori, et non des jugements empiriques, parce qu'elles emportent avec elles une nécessité qui ne peut provenir de l'expérience. Si l'on ne veut pas en convenir, soit. Je restreindrai ma proposition aux mathématiques pures, dont la notion veut déjà qu'elles ne soient pas empiriques, mais qu'elles ne contiennent absolument qu'une connaissance pure, a priori. On devait bien penser tout d'abord que la proposition 7 plus 5 égale 12 est purement analytique, qu'elle résulte de la notion d'une somme de 7 et de 5 d'après le principe de contradiction. Mais en considérant la chose de plus près, on trouve que la notion des sommes de 7 et de 5 ne contient autre chose que la réunion de deux nombres en un nombre unique. En quoi l'on ne pense point du tout ce qu'est ce nombre unique, formé des deux autres. La notion de 12 n'est point pensée déjà par le fait que je pense seulement cette addition de 7 et de 5, et j'ai beau décomposer ma notion d'une telle somme possible, je n'y trouverai cependant pas 12. Il faut sortir de cette notion et recourir à l'intuition, qui correspond à l'un des deux nombres composants, par exemple les 5 doigts de la main, ou, comme Seguin, dans son arithmétique, 5 points, et ajouter successivement les unités des 5 choses données en intuition à la notion de 7. On étend donc réellement la notion par cette proposition 7 plus 5 égale 12, et l'on ajoute à la première notion une autre notion qui n'y était point contenue, ce qui veut dire que la proposition arithmétique est toujours synthétique. Ce qui sera d'autant plus visible que les nombres seront plus forts. Il est manifeste en effet que tout en tournant et retournant notre notion, nous ne pourrions jamais trouver, par la simple décomposition des concepts, sans le secours de l'intuition, la somme totale des nombres partiels. Une proposition de géométrie pure n'est pas davantage analytique. C'est une proposition synthétique que celle-ci. D'un point à un autre, la ligne droite est la plus courte. En effet, ma notion de droite ne contient rien de quantitatif ou de grand, ce n'est qu'une qualité. La notion du plus court possible est donc tout entière une addition. Et ne peut être tirée par voie de décomposition de la notion de ligne droite. Une intuition est donc nécessaire ici, pour rendre la synthèse possible. Quelques autres principes employés par les géomètres sont réellement analytiques, il est vrai, et reposent sur le principe de contradiction. Mais ils ne servent, comme propositions identiques, qu'à l'enchaînement de la méthode, et non de principe. Telles sont par exemple les propositions A égale A. Le tout est égal à lui-même. A plus B est supérieur à A, c'est-à-dire le tout est plus grand que la partie. Et cependant, ces propositions-là même, quoiqu'elles n'aient de valeur que comme de simples notions, ne sont admises en mathématiques que parce qu'elles peuvent être représentées en intuition. Ce qui porte d'ordinaire à penser ici que le prédicat de semblable jugement apodictique est déjà dans notre notion, et qu'ainsi le jugement est analytique. C'est tout simplement l'équivoque de l'expression. Nous sommes obligés, en effet, d'ajouter à un concept donné un certain prédicat, et cette nécessité tient déjà aux notions. Mais la question n'est pas de savoir ce que nous devons ajouter par la pensée à une notion donnée, mais bien de savoir ce que nous y pensons réellement, quoique d'une manière obscure. D'où l'on voit que le prédicat tient, à la vérité, nécessairement au sujet par le moyen d'une intuition, qui doit s'y ajouter, et non pas immédiatement. Chapitre 3. Observation sur la division générale des jugements en analytique et en synthétique. Cette division est indispensable par rapport à la critique de l'entendement humain et mérite d'y être considérée comme classique. Je ne sache pas qu'elle puisse avoir ailleurs une grande utilité. Et je trouve ici la cause pour laquelle des philosophes dogmatiques, qui ne cherchaient jamais les sources des jugements métaphysiques que dans la métaphysique même, et non hors d'elle, dans les lois de la raison en général, ont négligé cette division, qui semble cependant souffrir d'elle-même. Et comment le célèbre Wolf, ou le pénétrant Baumgarten, qui en a suivi les traces, ont pu chercher dans le principe de contradiction la preuve du principe de la raison suffisante, qui est évidemment synthétique. Déjà, au contraire, je trouve dans les essais de Locke sur l'entendement humain une indication de cette division. Dans le chapitre 3, paragraphe 9 et suivant, du quatrième livre, après avoir parlé précédemment de la différente liaison des représentations dans les jugements et de ses sources, dont il place l'une dans l'identité ou la contradiction, jugement analytique, et l'autre dans l'existence des représentations en un sujet, jugement synthétique, avoue, dans le paragraphe 10, que notre connaissance a priori de cette dernière est fort restreinte et presque nulle. Mais ce qu'il dit de cette espèce de connaissance est si peu déterminé et si peu régulier qu'il n'y a pas lieu de s'étonner si personne, Hume moins qu'un autre, n'y a trouvé l'occasion de traiter des propositions de cette espèce. Car des principes universels de cette nature, et cependant déterminés, ne s'apprennent pas facilement d'esprits étrangers aux yeux desquels ils n'apparaissent que d'une manière obscure. Il faut y être arrivé tout d'abord par une réflexion personnelle, pour ensuite les trouver également, ou, sans cela, on ne les aurait assurément pas rencontrés, par la raison que les auteurs eux-mêmes n'ont pas su qu'une pareille idée servait de fondement à leurs propres observations. Ceux qui ne pensent jamais d'eux-mêmes sont cependant assez intelligents pour tout voir, après qu'on le leur a montré, et dans ce qui a déjà été dit auparavant, mais où néanmoins personne jusque-là n'avait pu l'apercevoir. Chapitre 4. Question générale. Une métaphysique est-elle absolument possible? S'il y avait une métaphysique qui pût réellement s'affirmer comme science, on pourrait dire « Voilà la métaphysique, vous n'avez qu'à l'apprendre. Elle vous persuadera irrésistiblement et invariablement de sa vérité. » Et alors la question ci-dessus serait inutile. Il n'y en aurait plus qu'une seule, celle qui concernerait plutôt l'examen de notre pénétration que la preuve de l'existence de la chose même, à savoir comment elle est possible et comment la raison doit s'y prendre pour y arriver. Mais la raison humaine n'a pas le bonheur d'en être là. On ne peut montrer un seul livre, comme serait par exemple le livre d'Euclide pour les mathématiques, et dire « c'est la métaphysique ». Vous y trouverez démontré par des principes de la raison pure le but capital de cette science, la connaissance d'un être suprême et d'une vie future. On peut bien nous montrer un grand nombre de propositions d'une certitude apodictique et qui n'ont jamais été attaquées, mais elles sont toutes analytiques et concernent plutôt les matériaux et les instruments de la métaphysique que l'extension de la connaissance, extension qui cependant doit être le but de la métaphysique. Mais tout en montrant aussi des propositions synthétiques, voire le principe de la raison suffisante, que vous n'avez cependant jamais démontré par la simple raison, ni par conséquent a priori, comme c'était votre devoir, mais que nous vous accordons néanmoins volontiers. Vous êtes tombé, en vous en servant pour votre fin principale, dans des assertions si insoutenables et si incertaines que de tout temps, une métaphysique en a contredit une autre, soit par rapport aux assertions mêmes, soit à leurs preuves, et qu'elle s'est ainsi privée d'un assentiment durable. Et même, les tentatives de constituer une pareille science ont été sans aucun doute la première cause du scepticisme qui s'est montré de si bonne heure, c'est-à-dire d'une façon de penser où la raison procède avec tant de force contre elle-même que le fait n'eût jamais été possible sans le désespoir absolu de la raison d'atteindre ses fins les plus importantes. Car longtemps avant qu'il fût question d'interroger méthodiquement la nature, on s'adressait simplement à sa raison personnelle, déjà exercée jusqu'à un certain point par l'expérience commune, attendu que la raison est toujours là, mais que les lois de la nature ne peuvent en général être recherchées qu'avec peine. La métaphysique surnagea donc comme de l'écume, de telle sorte cependant que l'écume qu'on avait produite, venant à se liquéfier, une autre se montrait aussitôt à la surface et était toujours recueillie avec le même empressement par quelques-uns, quand d'autres, au lieu de chercher au fond la cause de ce phénomène, s'estimaient des sages parce qu'ils se moquaient de la peine inutile que prenaient les premiers. La différence essentielle de la connaissance mathématique pure avec toute autre connaissance a priori, c'est qu'elle doit procéder non par notion, mais toujours par la construction des notions. Critique, tome 2, page 314. Comme elle doit par conséquent sortir, dans ses propositions, de la notion pour aller à ce qui contient l'intuition correspondante à cette notion, ces propositions ne doivent jamais s'obtenir par une décomposition des concepts, c'est-à-dire analytiquement. Elles sont donc toutes synthétiques. Je ne puis donc pas laisser sans le signaler le dommage porté à la philosophie par la négligence de cette observation, d'ailleurs facile et d'apparence insignifiante. Hume, pensant que la vocation d'un philosophe est de jeter ses regards sur tout le domaine de la connaissance pure, a priori, où l'entendement humain croit avoir de si vastes possessions, en détacha inconsidérément toute une province, et de beaucoup la principale, celle des mathématiques pures, persuadée que sa nature, et pour ainsi dire sa constitution politique, repose sur de tout autre principe, à savoir sur le seul principe de contradiction. Et quoiqu'il n'eût pas opéré la division des propositions d'une manière aussi formelle et générale, ou sous la dénomination propre, ainsi que je l'ai fait, ce fut cependant tout comme s'il eût dit « Les mathématiques pures ne contiennent que des propositions analytiques, et la métaphysique que des propositions synthétiques a priori. » Mais il se trompa très fort en cela, et cette erreur eut une influence fâcheuse sur toute sa conception. Car autrement, il aurait porté sa question de l'origine de nos jugements synthétiques bien au-delà de sa notion métaphysique de la causalité, il aurait étendu, a priori, jusqu'à la possibilité des mathématiques, puisqu'il devait considérer aussi les mathématiques comme ayant un caractère de synthèse. Mais alors il n'aurait pu fonder ses propositions métaphysiques sur la simple expérience, parce qu'autrement, il aurait soumis à l'expérience les axiomes mêmes des mathématiques pures, ce qu'il n'aurait pas manqué de reconnaître impossible. La bonne compagnie où se serait alors trouvée la métaphysique l'aurait garantie du péril d'être indignement traitée, car les coups qui auraient été dirigés contre elle seraient également tombés sur les mathématiques, ce qui n'était cependant pas son opinion, et ce qu'il ne pouvait pas être. Mais alors, cet esprit judicieux aurait fait des réflexions toutes pareilles à celles qui nous occupent maintenant, mais qui aurait reçu de son incomparable exposition une très grande force. Les jugements métaphysiques proprement dits sont tous synthétiques. Il faut distinguer les jugements qui appartiennent à la métaphysique des jugements proprement métaphysiques. Les premiers comprennent un grand nombre de jugements analytiques, mais qui ne sont que des moyens pour les jugements métaphysiques, but exclusif de la science, et qui sont toujours synthétiques. car si des notions appartiennent à la métaphysique, par exemple la notion de substance, les jugements qui résultent de leur simple décomposition appartiennent nécessairement aussi à la métaphysique. Par exemple, la substance est ce qui n'existe qu'à titre de sujet, etc. Et nous cherchons à l'aide de plusieurs de ces jugements analytiques à approcher de la définition des notions. Mais comme l'analyse d'une notion intellectuelle, comme celle de la métaphysique, ne procède pas autrement que la décomposition de toute autre notion, même empirique, qui n'appartient pas à la métaphysique, par exemple, l'air est un fluide élastique, dont l'élasticité ne disparaît par aucun degré de froid. La notion est, à la vérité, métaphysique, mais le jugement analytique ne l'est pas à proprement parler. Car la métaphysique a quelque chose de propre, de particulier dans la production de ses connaissances a priori. Production qui, par conséquent, doit être distinguée de ce que la métaphysique a de commun avec toutes les autres connaissances intellectuelles. Ainsi, par exemple, la proposition « tout ce qui est substance dans les choses est constant » est une proposition synthétique et proprement métaphysique. Quand donc on a recueilli, suivant certains principes, les notions a priori qui constituent la matière de la métaphysique et ses instruments, la décomposition de ces notions est alors d'un grand prix. Elle peut même être présentée comme une partie distincte de toutes les propositions synthétiques qui constituent la métaphysique même, comme philosophie distinctive en quelque sorte, qui ne contient que des propositions analytiques appartenant à la métaphysique. Car dans le fait, ces décompositions n'ont de grande utilité qu'en métaphysique, c'est-à-dire par rapport aux propositions synthétiques qui doivent résulter tout d'abord de ces notions décomposées. La conclusion de ce paragraphe est donc qu'une métaphysique a proprement affaire à des propositions synthétiques a priori, et que ces propositions en constituent la fin pour laquelle elle a sans doute besoin de beaucoup d'analyses de ces notions, de jugements analytiques par conséquent, mais où le procédé ne diffère point de toute autre espèce de connaissance, où il ne s'agit que de rendre les notions lucides par l'analyse. Mais la production de la connaissance a priori, soit quant à l'intuition, soit quant aux notions, celles-mêmes des propositions synthétiques a priori, mais en matière de connaissance philosophique, constitue la matière essentielle de la métaphysique. Dégoûté par conséquent du dogmatisme, qui ne nous apprend rien, aussi bien que du scepticisme, qui ne nous laisse aucun espoir, pas même celui du repos dans une légitime ignorance. Excité par l'importance de la connaissance dont nous avons besoin, et rendu circonspect par une longue expérience à l'égard de toute connaissance que nous croyons posséder, ou qui s'offre à nous sous le couvert de la raison pure, il ne nous reste plus qu'une question critique, à la solution de laquelle nous ayons à nous appliquer désormais. Une métaphysique est-elle absolument possible? Mais cette question doit être résolue non par des doutes sceptiques touchant certaines affirmations d'une métaphysique réelle, car nous n'en reconnaissons aucune pour le moment, mais d'après la notion encore toute problématique d'une pareille science. Dans la critique de la raison pure, j'ai traité cette question synthétiquement, c'est-à-dire que j'ai fait mes recherches dans la raison pure même et que j'ai essayé d'établir d'après des principes, dans cette source même, et les éléments et les lois de son usage. Ce travail est difficile et demande un lecteur résolu de suivre, par la pensée, un système qui est encore sans autre fondement donné que la raison même, et qui par conséquent, sans s'appuyer sur un fait quelconque, cherche à faire sortir la connaissance de son germe primitif. Des prolégomènes doivent être au contraire des préludes. Ils doivent plutôt indiquer ce qui est à faire pour constituer une science autant que possible, qu'exposer la science même. Ils doivent donc s'appuyer sur quelque chose que l'on connaît déjà passablement, d'où l'on peut partir avec confiance et s'élever aux sources que l'on ne connaît pas encore, et dont la découverte nous expliquera non seulement ce qu'on savait, mais aussi l'étendue de beaucoup de connaissances qui proviennent toutes des mêmes sources. Le procédé méthodique des prolégomènes, de ceux-là surtout qui doivent préparer à une métaphysique future, sera donc analytique. Mais heureusement que tout en ne pouvant pas admettre qu'une métaphysique comme science soit réelle, nous pouvons néanmoins assurer que certaines connaissances synthétiques a priori sont réelles et données, à savoir les mathématiques pures et la physique pure, car ces deux sciences contiennent des propositions qui sont, les unes apodictiquement certaines par la raison seule, les autres par l'accord universel résultant de l'expérience, et qui, les unes et les autres, sont universellement reconnues, indépendantes de l'expérience. Nous avons donc au moins quelques connaissances synthétiques, a priori incontestables, et nous pouvons demander, non pas si elles sont possibles puisqu'elles existent, mais seulement comment elles sont possibles, afin de pouvoir dériver du principe de la possibilité de celles qui sont données, la possibilité de toutes les autres. Chapitre 5. Question générale. Comment la connaissance par raison pure est-elle possible? Nous avons vu plus haut la différence considérable des jugements analytiques et des jugements synthétiques. La possibilité des propositions analytiques a pu être facilement saisie, car elle repose exclusivement sur le principe de contradiction. La possibilité des propositions synthétiques a posteriori, c'est-à-dire des principes qui sont tirés de l'expérience, n'est qu'une continuelle addition, synthèse, des perceptions. Restent donc seulement les propositions synthétiques a priori, dont la possibilité doit être cherchée ou examinée, parce qu'elle doit reposer sur un autre principe que celui de contradiction. Mais nous n'avons pas à rechercher tout d'abord la possibilité de pareilles propositions, à nous demander si elles sont possibles. Un assez grand nombre, en effet, sont réellement données, et avec une incontestable certitude. Et comme la méthode que nous suivons maintenant doit être analytique, nous partirons de ce point, qu'il y a une connaissance synthétique de cette espèce, mais que c'est là réellement une connaissance purement rationnelle. Et alors nous avons cependant à rechercher le principe de cette possibilité et à nous demander comment cette connaissance est possible, afin d'être en état de déterminer d'après les principes de sa possibilité les conditions de son usage, son étendue et ses limites. La question propre, exprimée avec une précision scolastique, à laquelle tout revient, est donc celle-ci. Comment des propositions synthétiques a priori sont-elles possibles? J'ai précédemment énoncé cette question en d'autres termes, pour être plus populaire, c'est-à-dire en la présentant comme une question de connaissance par raison pure. Ce que je pouvais bien faire sans préjudice de l'idée cherchée. Parce qu'il ne s'agit ici que de la métaphysique et de ses sources, et qu'on se rappellera toujours, je l'espère, d'après les explications plus haut données, que quand nous parlons ici de connaissance par raison pure, il n'est jamais question que des connaissances synthétiques et non des analytiques. Note. Il est impossible d'empêcher que, si la connaissance progresse insensiblement, certaines expressions déjà devenues classiques, qui datent encore de l'enfance de la science, ne soient trouvées par la suite insuffisantes, mal appropriées, et qu'un certain usage nouveau et plus convenable ne courent le risque d'être confondus avec l'ancien. La méthode analytique, comme opposée à la synthétique, est tout autre chose qu'un ensemble de propositions analytiques. Elle signifie seulement que l'on part de ce qui est cherché comme s'il était donné, et qu'on s'élève aux conditions sous lesquelles il est possible. Dans cette marche, on se sert souvent de simples propositions synthétiques, comme l'analyse mathématique en est un exemple. On pourrait l'appeler plus exactement méthode régressive, pour la distinguer de la méthode synthétique ou progressive. Le nom d'analytique est encore usité pour indiquer une partie de la logique. Et alors il s'agit de la logique de la vérité par opposition à la dialectique, sans qu'il soit proprement question de savoir si les connaissances qui la concernent sont analytiques ou synthétiques. Fin de la note, reprise du texte. De la solution de cette question dépend donc celle de savoir si une métaphysique sera ou ne sera pas conservée, et par suite, celle de son existence même. Qu'on donne à ces assertions métaphysiques tout l'air de vraisemblance possible, qu'on entasse argument sur argument, si l'on ne répond d'abord pertinemment à cette question, j'ai le droit de dire, tout cela ne signifie rien. C'est une philosophie sans fondement, une fausse sagesse. Vous parlez au nom de la raison pure, et vous croyez acquérir des connaissances, en quelque sorte a priori, parce que non seulement vous décomposez des notions données, mais que vous présentez de nouvelles alliances de concepts, sans qu'elles aient pour base le principe de contradiction, et vous croyez cependant pouvoir les considérer comme entièrement indépendantes de toute expérience. Comment donc en êtes-vous venu là? Et comment comptez-vous justifier de semblables prétentions? Vous ne pouvez en appeler à l'assentiment d'un réseau universel. C'est un témoin dont l'autorité ne repose que sur la rumeur publique. Mais autant la réponse à cette question est nécessaire, autant elle est difficile en même temps. Et si la principale raison pour laquelle on n'a pas depuis longtemps cherché à la résoudre tient à ce que l'on ne sait pas même douter qu'il puisse y avoir là une question? Il y en a cependant une autre cause. C'est qu'une réponse satisfaisante à cette seule question exige une réflexion beaucoup plus soutenue, plus profonde et plus pénible que l'œuvre métaphysique la plus étendue qui, à première vue, promet l'immortalité à son auteur. Aussi, tout lecteur clairvoyant, quand il considère avec soin les exigences du problème, effrayé tout d'abord de la difficulté, doit l'estimer insoluble. Et s'il n'y avait réellement pas de ces connaissances synthétiques pures, a priori, les tenir complètement est absolument pour impossible. C'est effectivement ce qui est arrivé à David Hume, quoiqu'il ne se fît pas à beaucoup près une idée aussi étendue qu'il y a lieu et qu'elle doit être pour que la réponse s'étende à toute la métaphysique. Comment est-il possible, en effet, dit cet esprit profond, que si une notion m'est donnée, je puisse en sortir et y rattacher une autre notion qui n'y est point contenue, et même comme si celle-ci tenait nécessairement à celle-là? L'expérience seule peut nous fournir de pareilles liaisons. C'est ainsi qu'il conclut d'une difficulté qu'il regardait comme une impossibilité. Et toute cette prétendue nécessité, ou ce qui revient au même une connaissance a priori, estimée nécessaire, n'est qu'une longue habitude de trouver vrai quelque chose, et de tenir par conséquent pour objective la nécessité subjective. Si le lecteur se plaint de la difficulté et de la peine que je lui donnerai par la solution de cette question, il a le droit d'en essayer une plus facile. Peut-être s'attachera-t-il alors à une tentative qui a entrepris pour lui une si profonde recherche, et sera-t-il un peu surpris de la facilité avec laquelle on a pu encore l'exécuter, vu la nature de la chose en question. Aussi a-t-il fallu des années de longs travaux pour résoudre cette question dans sa pleine universalité, au sens où les mathématiciens emploient ce mot, c'est-à-dire suffisant pour tous les cas. Et pour être en état de la présenter enfin sous une forme analytique, comme le lecteur la trouvera dans cet écrit. Tous les métaphysiciens sont donc condamnés à suspendre solennellement et justement leurs occupations tant que la question « Comment les connaissances a priori sont-elles possibles ?» n'aura pas été résolue par eux d'une manière satisfaisante. Car cette solution seule constituera pour eux le droit qu'ils peuvent avoir de nous présenter quelque chose au nom de la raison pure. À défaut de ce titre, ils ne peuvent s'attendre qu'à être congédiés sans autre examen de leur assertion par les personnes raisonnables qui y ont été si souvent trompées déjà. Mais s'ils veulent au contraire présenter leur œuvre, non comme une science, mais comme un art de persuasion salutaire et bienfaisant pour le sens commun, on ne peut raisonnablement les en empêcher. Ils emploieront alors le langage modeste d'une foi raisonnable. Ils avoueront que s'ils ont un droit, ce n'est pas même celui d'opiner sur ce qui dépasse les limites de toute expérience possible, loin d'en savoir quelque chose, mais celui-là seul d'admettre quelque chose, non pour l'usage spéculatif, mais seulement pour l'usage pratique, qui est possible et même indispensable pour la direction de l'esprit et de la volonté dans la vie. À cette condition seule, ils pourront s'appeler des hommes utiles et sages, et cela d'autant plus qu'ils renonceront plus volontiers au titre de métaphysiciens. Ceux-ci, en effet, veulent être des philosophes spéculatifs, et alors, s'il s'agit de jugements a priori, on ne peut pas s'en tenir à de sonores probabilités, car ce qu'on prétend connaître a priori est donné par cette raison comme nécessaire. Et il n'est pas permis de jouer aux présomptions. L'affirmation doit avoir un caractère scientifique, ou elle n'est absolument rien. On peut dire que toute la philosophie transcendantale, qui précède nécessairement toute métaphysique, n'est que la pleine solution de la question qui nous occupe, mais présentée dans un ordre systématique et avec développement, et qu'il n'y a eu, jusqu'ici, aucune philosophie transcendantale. Ce qui en porte le nom n'est proprement, en réalité, qu'une partie de la métaphysique. Mais cette science doit avant tout fonder la possibilité de la métaphysique et, par conséquent, précéder toute métaphysique. On ne doit donc pas s'étonner, puisqu'il nous faut toute une science, et une science privée de tout secours de la part des autres, une science par conséquent toute nouvelle, si pour répondre d'une manière convenable à une seule question, il faut tant de peine, s'il y a tant de difficultés, et si on ne peut le faire sans aucune obscurité. Puisque nous marchons maintenant à cette solution, et même suivant une méthode analytique où nous supposons que les connaissances par raison pure sont réelles, nous ne pouvons faire appel qu'à deux sciences de la connaissance théorique, la seule dont il s'agit ici, à savoir les mathématiques pures et la physique pure. Ces deux sciences seules peuvent en effet nous donner les objets en intuition, et par conséquent, s'il y a en elle une connaissance a priori, montrer la vérité ou l'accord de cette connaissance avec l'objet in concreto, c'est-à-dire sa réalité. De là, on s'avance par la voie analytique jusqu'au fondement de cette connaissance, ce qui facilite singulièrement l'œuvre où les considérations générales sont non seulement appliquées à des faits, mais en partent même, au lieu que par la marche synthétique, elles doivent être dérivées de notions entièrement abstraites. Mais pour nous élever de ces connaissances a priori réelles, pures, et en même temps fondées à une métaphysique possible que nous cherchons, c'est-à-dire à une métaphysique comme science, il est nécessaire de comprendre, sous notre question principale, ce qui l'occasionne, et qui, simple connaissance a priori, naturellement donnée, quoique d'une vérité non suspecte, lui sert de fondement. Cette connaissance, dont le traitement exempte de toute recherche critique sur la possibilité, s'appelle déjà d'ordinaire métaphysique. Il faut en un mot faire entrer dans notre question capitale l'aptitude naturelle pour une telle science, et alors la principale question transcendantale, décomposée en quatre autres, recevra une réponse successive. Premièrement, comment une mathématique pure est-elle possible? Deuxièmement, comment une physique pure est-elle possible? Troisièmement, comment une métaphysique en général est-elle possible? Quatrièmement, comment une métaphysique comme science est-elle possible? On voit que, bien que la solution de ces questions doive surtout présenter la matière essentielle de la critique, elle a bien aussi quelque chose de propre, qui, considéré en lui seul, mérite encore l'attention. À savoir de rechercher dans la raison les sources de sciences données, afin de connaître ainsi quelque chose a priori de la faculté qui en est principe, de rechercher et de déterminer à l'aide du fait ce que gagnent par là ces sciences mêmes, sinon par rapport à la matière, du moins en ce qui regarde leur usage légitime. Et puisqu'elles éclairent par leur origine commune une question plus élevée, de fournir en même temps l'occasion de mieux expliquer leur propre nature.